J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien.
Dans ce cas, restez à l'écoute de Radio Résonance 96.9. Histoire oubliée, histoire occultée, censurée, histoire de femme, histoire d'homme. Ensemble, rappelons-nous l'histoire.
Je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il meurt, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête.
C'était hier, samedi jour de paye, et le soleil se levait sur nos fronts. J'avais déjà vidé plus d'une bouteille, si bien que je m'avais jamais trouvé si rond. Là, la bourgeoise qui rapplique devant le zinc, feignant qu'elle dit, t'as donc lâché le turbin. Oui que je réponds, car je vais au métingue, au grand métingue du métropolitain. Oui que je réponds, car je vais au métingue, au grand métingue du métropolitain. Les citoyens, dans un élan sublime, étaient venus, guidés par la raison. À la porte, on donnait 25 centimes pour soutenir les grèves de Vierzon. Bref, à part quatre municipaux qui schlinguent et trois sergots déguisés en Pékin, j'ai jamais vu de plus chouette métingue que le métingue du métropolitain. J'ai jamais vu de plus chouette métingue que le métingue du métropolitain. Y'avait Basli, le mineur indomptable, Camélina, l'orgueil du pays. Ils sont grimpés tous deux sur une table pour mettre la question sur le tapis. Mais tout à coup, on entend du bastringue. C'est un mouchard qui veut faire le malin. Il est venu pour troubler le métingue, le grand métingue du métropolitain. Il est venu pour troubler le métingue, le grand métingue du métropolitain. Moi je tombe dessus, et pendant qu'il proteste d'un grand coup de poing, j'y renfonce son chapeau. Il déguerpit sans demander son reste, en faisant signe aux quatre municipaux. À la faveur de ce que j'étais brin de zinc, on m'a conduit jusqu'au poste voisin. Et c'est comme ça qu'a fini le métingue, le grand métingue du métropolitain. Et c'est comme ça qu'a fini le métingue, le grand métingue du métropolitain. Morale. Peuple français, la Bastille est détruite, mais y'a encore des cachots pour tes fils. Souviens-toi des géants de 48 qui étaient plus grands que ceux d'aujourd'hui. Car c'est toujours le pauvre ouvrier qui trinque, même qu'on le fourre au violon pour un rien. C'était tout de même un bien chouette métingue que le métingue du métropolitain. C'était tout de même un bien chouette métingue que le métingue du métropolitain.
Eh bien, bien sûr, le grand métingue du métropolitain, ça sent le Vierzonais. On va accueillir des Vierzonais, Vierzonaises, Laurent Aucher et Daniel Champion. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Récit d'anciens métallos. Et ça date de 1996. Alors, expliquez-moi chacun votre rôle. Pourquoi vous avez ressorti ça maintenant ? C'est-à-dire plus de 20 ans après, 25 ans après, c'est-à-dire une génération. Laurent ?
Oui, donc en fait, ce sont des interviews qui avaient été réalisées en 1996 dans le cadre d'un mémoire universitaire. Et j'avais gardé ça, sachant que ensuite j'ai préparé une thèse de doctorat. Donc j'avais ça en archive. Et c'était ce matériau dormant que j'avais pas envie de faire dormir.
Ouais.
Donc j'ai proposé à Daniel, que j'avais rencontré dans le cadre de la thèse de doctorat sur laquelle j'avais travaillé. On en a un petit peu discuté. On s'est dit on pourrait peut-être en faire quelque chose de ça. Et en fait, à partir de ce matériau, Daniel a souhaité donc faire un travail de transcription que j'avais fait à l'époque, mais bah, tu vas peut-être pouvoir l'expliquer.
Oui, on parlait.
Tu as souhaité refaire à ton niveau. Mmh. Et ensuite, Daniel, donc, tu as mis en récit l'ensemble de ces interviews. Au départ, il y en avait 6, avec 3 métallurgistes vierzonais. Donc j'avais réalisé 2 séries d'entretiens. Et puis voilà, on était parti un petit peu sur cette idée-là. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Et voilà, donc... Peut-être expliquer ensuite ton travail, Daniel.
Alors, donc, c'est aux éditions de l'Harmattan, hein, dans la collection Logique sociale, et c'est 18 €, donc toujours en dessous le fameux seuil psychologique des 20 €. On dit, bon, allez, on va se payer ça, parce que ça fait moins de 20 €. Récit d'anciens métallos. Daniel, un professeur agrégé. Hein, c'est ça ?
Faut-il le préciser ? Ça me paraît superflu.
Ouais, mais on se connaît depuis longtemps, Daniel.
Oui.
Alors ?
Eh bien, j'avais rencontré Laurent il y a déjà une dizaine d'années. Et à l'époque, j'ai relu ses écrits, d'abord sa thèse, puis ce qu'il a publié, puisqu'il a déjà publié 2 ouvrages à partir de sa thèse, Mémoire ouvrière et puis Le tribunal des ouvriers, chez l'Harmattan aussi. Et donc, ma tâche a consisté à écouter les interviews qu'il avait enregistrées, à écrire mot à mot ce qui était dit, et ensuite à construire des récits de vie où l'ordre chronologique a été rétabli à partir des 2 entretiens de base. Et où j'ai essayé d'être parfaitement fidèle à la fois au contenu et aussi à la manière de parler des gens, tout en rendant un peu plus fluide le déroulé du récit.
Alors, voilà. Si je comprends bien ces interviews, c'était comme ça, mémoire orale, mais c'était les idées qui venaient de ces ouvriers. Et vous, Daniel, vous avez remis...
Oui, c'est-à-dire
vous avez gardé la sincérité.
Complètement.
Vous avez remis...
C'est-à-dire que j'ai fait disparaître ce qui paraissait superflu et qui pouvait gêner la lecture, mais tout en conservant au maximum les caractéristiques de la langue orale.
Ouais.
Ce qui donne à la lecture peut-être pour le lecteur un certain plaisir,
alors puisque c'est très vivant. Alors c'est pour ça qu'il y a métallo, peut-être, ouais. C'est un terme populaire.
Oui, alors en fait, peut-être pour préciser, au niveau des entretiens qui avaient été réalisés, en entretien sociologique, on s'appuie sur ce qu'on appelle un guide thématique. Donc sur la première série d'entretiens, moi j'avais réalisé, les entretiens qui avaient été réalisés étaient plus en lien avec la thématique du travail. Et sur le deuxième entretien que j'ai réalisé pratiquement 6 mois après le premier, là on était plutôt sur des aspects liés à la vie familiale, à la vie privée. Et je partais sur un dispositif que mon directeur de DEA m'avait soumis à l'époque, ce directeur de DEA s'appelait Gérard Damer. C'était quelqu'un qui était féru de psychanalyse et il m'avait conseillé d'utiliser ce qu'il appelait l'exercice de mentalisation du premier logement d'enfance. Et en fait, ce que j'avais demandé à la personne que j'interviewais à chaque fois, c'était je lui disais de se placer devant le premier logement d'enfance, d'ouvrir la porte et de me décrire un petit peu ce qu'il voyait. Et donc, en fait, ça permettait d'avoir accès à cette mémoire un petit peu, soit perdue, soit refoulée, soit... Et le travail de Daniel, ça a été, un travail de recomposition de ça, mais en essayant de respecter vraiment le contenu des personnes qui avaient été interviewées. Et puis, l'autre idée que je trouve très intéressante et sur laquelle on a beaucoup discuté, c'est cette idée de respecter la pensée en acte. C'est-à-dire de prendre comme postulat que la personne qui est interviewée, on est dans le cadre d'une interview qui est complètement artificielle, parce que enfin, on n'est pas dans la vraie vie lorsqu'on interviewe quelqu'un comme ça. Mais cette personne a des capacités de réflexivité, c'est-à-dire une capacité de pouvoir réfléchir ses conditions d'existence. Et Daniel a essayé de respecter ça, c'est-à-dire de remettre en forme, d'un point de vue du récit, cette pensée qui était en évolution.
C'est pourquoi, je l'explique dans la dernière partie, c'est pourquoi, par exemple, j'ai conservé la caractéristique du langage parlé au niveau de la syntaxe, c'est-à-dire, à l'oral, on procède par juxtaposition, et on ne construit pas des phrases à la Proust avec un enchaînement de subordonnées, et ainsi on voit comment la personne construit sa pensée, se reprend, revient sur ce qu'elle a dit, et pour moi c'est ça qui colle bien au contenu.
Alors ça m'a intéressé effectivement, parce que je me souviens de Brecht qui assistait à une répétition d'un théâtre ouvrier, donc des amateurs, et il a dit c'est formidable parce qu'ils sont vraiment à la place, à leur place, avec les hésitations, les retours en arrière, les silences, pour bien préciser la pensée. Et ça, je crois que ça, c'est important.
Ben, le problème souvent de la pensée dominante, c'est qu'elle laisse penser que les classes populaires ne sont pas en capacité de penser par eux-mêmes. Or, pour avoir vécu dans un milieu ouvrier, ou en tout cas en proximité d'un milieu ouvrier, je sais très bien que c'est pas le cas. C'est-à-dire que les personnes issues des milieux populaires sont en capacité de réfléchir leur vie, de mettre en perspective un certain nombre d'éléments sur un plan, général. Ils le font avec leurs mots. Ça témoigne chez certains de préoccupations intellectuelles extrêmement élaborées, et c'était un petit peu ça que je souhaitais avec Daniel essayer de mettre en valeur. Et puis sur le terme métallo, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée à l'époque, c'était de travailler sur la mémoire ouvrière métallurgique. Vierzon est un bassin industriel, il le reste encore aujourd'hui, mais à l'époque c'était un bassin très très important, et la métallurgie jouait un rôle central. Et pour faire le lien donc avec Métallo, évidemment, donc au départ c'était un mémoire autour de la question de la métallurgie. Et quand on utilise le terme métallo, c'est qu'on se place du point de vue de ceux qui parlent. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre en valeur cette mémoire-là, cette culture-là, quoi.
Et on retrouve dans votre livre, comme ça, des précisions de termes, par exemple, populaire, vous précisez certaines expressions qui sont d'ailleurs souvent déformées quand on parle du peuple. Moi, ça m'énerve un peu parce que le peuple de Marine Le Pen n'est pas le même que le peuple des métallos.
Oui, d'autant plus qu'on a maintenant populisme. Qui vient de peuple et qui est quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, chargé de façon assez négative.
Je suis très sensible à la notion de terme, parce que je considère, on sait avec Freud que à la surface des mots, il y a quand même accès à un certain nombre de choses qui relèvent de l'inconscient, et avec Hannah Arendt, on sait qu'à la surface des mots, il y a de l'idéologie. Et je pense que c'est un combat qu'il faut mener. C'est-à-dire la question du langage est un combat qu'il ne faut pas abandonner sur un plan idéologique, parce que dès qu'on le fait, ça veut dire qu'on accepte, sur un plan de nos représentations, d'abandonner une partie de nos représentations aux autres, quoi.
Alors, justement, dans ce livre, il y a, je dirais, des niveaux de langage. Vous êtes un sociologue, donc il y a toute une série de références, et puis c'est bien, il y a des citations d'ouvrages, de guides, Et puis, il y a la parole ouvrière. Alors, à qui s'adresse votre livre ?
L'effort qui a été fait, est-ce qu'on a réussi ? Je ne sais pas. C'est que, à la fois, puisque Laurent est sociologue en cours de carrière, les gens de sa spécialité puissent s'intéresser à la pensée, et à la mise en forme de cette pensée, de manière à pouvoir susciter un débat. T'es d'accord avec ça ? D'autre part, notre souhait, c'est vraiment que la plupart des gens y trouvent de quoi se s'intéresser, voire même avoir du plaisir à lire. Et j'ai, moi, personnellement, j'ai beaucoup pensé à ça en réécrivant les récits à tous les gens que je connais qui ne sont pas sociologues, qui ne sont pas profs de lettres,
ben oui.
et qui m'entourent, qui nous entourent. Et nous avons déjà quelques retours. Et les gens de notre génération, Michel, s'y retrouvent en partie, notamment en ce qui concerne... Moi, je ne suis pas d'un milieu ouvrier, mais mon père était un artisan extrêmement modeste de la campagne. D'ailleurs, quand je lis Roger Parent, c'est mon père que j'entends, c'est très clair. Et d'autre part, ben, le logement... Les conditions de confort plutôt d'inconfort, moi je les ai vécues dans mon enfance. Donc je pense que beaucoup de gens peuvent soit s'y reconnaître s'ils ont un certain âge, soit être intrigués et intéressés par ces modes de vie qui sont ceux de leurs grands-parents, éventuellement.
Alors vous avez des étudiants, je suppose des jeunes étudiants, comment ils jugent, donc je dis ça c'est 96, c'est une génération hein, que vous venez de remettre à l'honneur, comment ça se passe avec vos étudiants qui eux sont d'une autre civilisation?
Ce qui change, c'est la manière dont on considère maintenant les ouvriers ou la classe ouvrière. C'est-à-dire que, enfin, moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, dans l'ouvrage, c'était encore le cas lorsque j'ai travaillé sur ma thèse, et ça l'est aussi sur le travail que je suis en train de finir là sur le Val-de-Bois, sur les générations les plus âgées, la question de, enfin, le terme ouvrier ne pose pas un problème en soi. Ce qui est assez surprenant, c'est que sur les jeunes générations, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'ouvrier, c'est une véritable abstraction. Ça devient quelque chose de... Enfin, ça commence à prendre sens lorsqu'on commence à concrétiser un petit peu le sujet. Lorsqu'on on dit, mais une personne qui travaille dans une grande surface encaisse, une personne qui va travailler, par exemple, sur le nettoyage dans une entreprise qui fait des horaires assez éclatés, avec un salaire qui est assez réduit, qui peut être salarié, mais en même temps qui est dans un statut assez précaire, puisqu'elle a une amplitude d'horaire qui est très limitée. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'ouvrier, enfin, ou d'ouvrière ? Là, ça commence à résonner. Donc, la différence par rapport donc, à mes étudiants, c'est que le terme d'ouvrier est peut-être plus pensé comme une abstraction, quoi.
Alors au départ, en 96, vous avez choisi, est-ce que vous avez choisi, vous n'avez choisi que ces trois cas ?
Oui, alors il y avait, en fait c'était un mémoire de DEA, c'est-à-dire que ça correspond aujourd'hui au Master 2, c'était donc un mémoire de cinquième année d'études, et l'objectif c'était éventuellement ensuite de faire une thèse de doctorat. Donc il faut avoir à l'esprit que le DEA à l'époque, ce qui, c'est la même chose avec le Master 2 à mon avis, c'était vraiment pensé comme une sorte de travail exploratoire pour ensuite préparer une thèse de doctorat. Et à l'époque, donc, j'avais Gérard Namer, qui était directeur de DEA, qui était vraiment dans cette optique-là, quoi. Ce que je tiens aussi à préciser, c'est que c'est pas le nombre qui fait l'intérêt du matériau. Il me semble au contraire que, avec ces trois récits, on a accès à trois trajectoires de vie, à la fois complémentaires, mais extrêmement singulières, quoi. Et il me semble que l'intérêt de la méthode du récit de vie, c'est qu'elle permet de mettre en perspective cette dimension liée à la trajectoire de vie. Donc elle permet de rendre compte de dynamiques internes à la personne. Elle permet aussi de voir comment la personne, dans sa trajectoire, évolue, quoi.
Alors expliquez-moi un peu l'histoire des nuages de mots qu'on trouve à la fin de l'ouvrage, nuages de mots des trois récits cumulés, et puis les nuages de mots de Michel Poulain, de Michel Besse et de Roger Parent. C'est une belle idée en tout cas.
Oui, c'est une belle idée, mais je vais laisser Laurent expliquer. Ensuite, je dirai ce que, très sincèrement, j'en pense. Laurent sait ce que j'en pense.
Alors, peut-être remercier Benoît Yarnaud, qui a été la personne qui a modélisé, en fait, ces nuages de mots. En fait, au départ, l'ouvrage tel qu'il est complètement différent de ce qu'on avait pensé au départ. C'est-à-dire que moi, j'avais envisagé au départ de mener plutôt une réflexion de type ce qu'on appellerait épistémologique sur le rapport à l'archive. Parce que je me disais, il y a ce matériau dormant. Avec Daniel, on était clair sur cette idée qu'on souhaitait mettre en récit ces interviews, mais on souhaitait aussi faire un travail sur le rapport à l'archive. Et je me disais, pour faire ce travail du rapport à l'archive, il me faut trouver des supports d'objectivation, c'est-à-dire des supports qui me permettent d'objectiver mon propos. Et j'avais donc tenté cette méthode lexicométrique avec plus ou moins de bonheur, parce que je suis assez d'accord avec Daniel. Très rapidement, ça a présenté un certain nombre de limites sur un plan méthodologique.
Oui, c'est pas très convaincant.
Après, ça présente un intérêt, c'est que rapidement, on voit les principaux termes qui émergent.
Les termes qui émergent.
Voilà, de ce point de vue-là, c'est assez parlant. Après, méthodologiquement, je suis un peu plus réservé. Ouais.
Non, mais moi, ça me plaît assez, parce qu'il y a effectivement une approche entre l'importance de l'idée, l'importance des mots, et d'autres qui sont là, je vois tout simplement O, A.
On ne va pas développer, je pense qu'on n'en a pas le temps. Moi, j'ai eu quelques réticences. C'est pour ça qu'on a été amené à développer le commentaire. Pour éviter... Moi, j'ai une formation de littéraire, mais essentiellement linguiste. J'aurais été lexicologue si j'en avais eu le temps. Ça me passionne, les mots. Et en fait, si on regarde un nuage avec au plein centre le verbe aller, c'est normal que le verbe aller soit au plein centre, très gros. Ouais. Étant donné la polysémie du verbe aller et le fait que ce soit un auxiliaire de mode, je vais faire ça. Donc, ça signifie rien, aller au milieu. Donc c'est pour ça qu'on a fait ces commentaires.
Usine travaillée, époque, ça veut bien dire certaines choses.
Je suis d'accord, Michel. Il y a d'autres mots au contraire pour lesquels c'est beaucoup plus parlant. D'ailleurs, on le met dans le commentaire. Et autre objection, puis j'en finirai là, c'est que à partir du moment où on a construit les récits en partant d'interviews, la question posée par Laurent forcément induit un contexte, donc induit des mots, et du coup, c'est un choix un peu biaisé. Mais à partir du moment où on prend de la distance et qu'on dit ça peut signifier ça, mais tel mot, sa fréquence peut signifier autre chose, je pense qu'on ne peut pas nous faire beaucoup de reproches.
Alors, comment classer, par exemple, ce qui est de la sincérité première, on dit ça, c'est effectivement... Et puis, des mots qui doivent faire partie de l'idéologie dominante, des mots que nous impose le monde extérieur et qu'on emploie par facilité ou pour simplifier. Oui ou non ?
La question, c'est par rapport aux ouvriers eux-mêmes ou c'est
ouvriers.
Les ouvriers sont le fruit d'une contemporanité, donc ils absorbent ces mots. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir déjà ce qu'ils en font. Est-ce qu'ils les utilisent comme ça, sans appareillage critique, ou est-ce que ils sont en capacité aussi de prendre conscience des enjeux que revêt l'usage du mot. Je vais prendre un exemple sur c'est lié plutôt à la thèse. J'avais rencontré quelqu'un qui avait habité au Gibjon lorsqu'elle était enfant, et quelqu'un qui a un parcours militant, plutôt CGT, mais je pense qu'elle était proche aussi du Parti communiste, et c'est quelqu'un qui donc me parle de son enfance, et je sentais qu'il y avait quelque chose, parce qu'elle tournait autour du pot, et à un moment donné, elle utilise plutôt que... Elle sentait que dans ce qu'elle est en train de dire... Il y a ce qui était acceptable sur un plan moral. Il y avait une mise en tension que je percevais de sa part. Et elle a réussi à trouver un moyen de s'en sortir d'une certaine manière. Ça a été d'utiliser le terme métissage. Moi, c'est ça qui m'intéresse. En situation sociologique, c'est d'essayer de se saisir de ça pour essayer ensuite de l'analyser.
Est-ce que vous avez trouvé des néologistes ? Je me souviens, Marguerite Renaudat qui avait fait allusion au verbe « camarader », sa « camarader », qui n'est pas du tout dans le dictionnaire, etc., qui voulait bien dire ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez ce type de... d'expression.
Non, je n'ai pas trouvé dans les trois interviews ce qu'on peut appeler des néologismes. Mais pour revenir un petit peu à ce qu'on disait avant, ce que disait Laurent, c'est le problème de l'actualisation du vocabulaire. Alors, on a eu une discussion assez vive sur le fait qu'un des métallos disait « c'est un travail de nègre ».
Ah, 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 oui, bon, d'accord, je comprends.
Ne pas oublier que cette époque, quand le métallo en question... Alors, quelles étaient ses idées? Quelle était sa position par rapport aux races? Je n'en sais rien. Mais moi, je suis sûre, personnellement, qu'à cette époque, la connotation raciste et la connotation d'esclavagisme... n'était pas dans sa tête. Travail de nègre, justement, signifiait un travail beaucoup trop dur pour un humain.
C'était imagé pour lui.
Donc, je pense que, évidemment, maintenant, on est très, très, très accroché à ces choses-là, mais ce n'était pas le cas à l'époque.
Une phrase à rajouter qui vous tient à cœur, Laurent ?
Simplement, en préparant l'émission, j'ai réécouté un petit peu certains extraits, et ce que j'ai ressenti, c'est de l'émotion, et j'espère que le lecteur, à la lecture de cet ouvrage, aura la même émotion que j'ai en ayant écouté les bandes hier soir pour préparer l'émission.
Est-ce que ça pourrait passer à la radio ?
Moi, il n'y a pas de problème. C'est des bandes qui ont été été numérisées par Cyclic. Donc, à mon avis, il n'y a aucun problème.
Juste un petit souvenir qui a fait mon bonheur. Moi, je n'ai pas rencontré ces personnes. Et quand j'ai eu terminé, que j'ai fait lire à Laurent, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses ? Il m'a dit, je les retrouve. Ça, c'était le plus beau compliment. Je la remercie.
Bravo, bravo, Daniel.
Soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Des navires de guerre battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y'a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y'a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et main d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or.
Les mains d'or, Lavilliers. Daniel, c'est une de vos chansons préférées, cela ?
Oui, c'est une chanson qui me meut vraiment profondément.
Vous avez vu Lavilliers sur scène ?
Oui, je l'ai vu sur scène, quand il est passé à Bourges au Palais des Congrès, il y a quelques années. Il l'a chanté, bien sûr, entre autres.
Bon, ben, c'est tout à fait de circonstance, cette chanson. Bon choix, cher agrégé. Laurent, on va peut-être montrer comment ce deuxième livre a été bâti.
Troisième.
Hein ?
Troisième,
bon. Alors, on va écouter... On en prend une parmi les trois. Hein. On va écouter une interview. Peut-être voulez-vous présenter d'abord Michel Bess, puisque c'est lui qu'on veut choisir.
Alors Michel Bess, c'était le troisième métallo que j'interviewais, sachant que les deux premiers avaient été... dont les noms m'avaient été soumis par quelqu'un qui s'appelait Michel Gest, qui était une figure importante du militantisme local à l'époque. Et donc les deux premiers, c'était Roger Parent et Michel Poulain, qui présentaient cette caractéristique d'être très proche de la CGT et politiquement donc très très engagé. Quoi. Michel Bess, donc à l'époque je cherchais quelqu'un d'autre. Michel Bess, c'était quelqu'un qui habitait à côté de chez mes parents. Et ce que je trouvais intéressant dans son cas, c'est que il avait un parcours très différent. C'était un militant aussi, mais il avait un parcours très très différent. Il avait cette particularité d'avoir été militant à la CFDT et par ailleurs très proche de LO.
D'accord. Et lutte ouvrière.
Voilà, lutte ouvrière. Et sur un plan idéologique, c'était quelqu'un qui avait plutôt un arrière-fond anarchiste ou anarchisant.
D'accord.
Quoi. Et moi, je connaissais donc cet homme parce qu'il habitait à côté de chez mes parents. Et j'avais, je ne sais pas pour quelle raison, mais un attachement très, très fort par rapport à cet homme. Parce que je le trouvais... c'est quelqu'un qui me touchait sur un plan humain, quoi.
Et vous avez fait cette interview le même jour que Roger Parent.
Oui, oui. Hein, oui.
Et les questions ont pu, lors de cette deuxième interview, profiter de la première interview ou vous l'avez laissé librement s'exprimer ?
Non, la méthode qui est utilisée, c'est vraiment la méthode du récit de vie, ou la méthode, ce qu'on appellera biographique, qui s'appuie donc sur un guide thématique.
D'accord.
Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des questions qui sont ouvertes.
Ouais.
C'est-à-dire, il y a ce guide qui borde un certain nombre de thématiques, de manière à pouvoir aborder l'ensemble des mêmes thèmes avec les différentes personnes qu'on interviewe. Là, c'est vraiment ensuite pour faire une analyse comparée. Mais le guide d'entretien a vraiment cette fonction de laisser parler les personnes. Quoi.
D'accord.
Donc, non, il n'y a pas d'influence à proprement parler. Enfin, dans mon souvenir, il n'y en a pas. Mais je ne crois pas que ça soit très important. Ça.
D'accord. Eh bien, allons-y.
Donc, vous êtes Navierzon. En
Je suis né, oui, en 1933, mais pas Vierzon.
Ouais.
À Clermont dans l'Oise.
Ouais. Et ben, vous pouvez me raconter comment vous êtes venu à Vierzon ?
Bon, c'est simple, je suis de l'assistance publique. Disons que ma mère était filmaire, et à l'époque, filmaire, c'était un crime. Donc, pour pouvoir travailler, pour pouvoir trouver un emploi, elle était obligée de me déposer à l'assistance publique, mais je n'étais pas abandonné. Elle avait droit de regard sur moi, elle me prenait tous les week-ends avec elle, etc. Donc, je n'étais pas abandonné. Mais j'ai vécu dans le milieu de l'assistance publique. J'ai donc été à l'école jusqu'à 14 ans, j'ai eu mon certificat d'études. De là, ayant mon certificat d'études, l'assistance m'a passé dans les fermes, dans le Nord. Et de 14 ans à 21 ans, j'ai travaillé dans les fermes.
Dans les fermes ?
Dans les fermes.
Dans le Nord ?
Dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. Et donc les fermes, disons que j'étais rodé, je peux dire. Mais enfin, j'avais envie d'abord de rejoindre le centre parce que j'avais de la famille, j'avais mes grands-parents, etc. Et donc c'est peut-être les origines qui appelaient. Enfin, je voulais revenir dans le centre et je voulais surtout travailler en usine. Parce que bon, à cette époque, on s'apercevait qu'à l'usine, par exemple, travailler 8 heures terminé, que quand on était ouvrier paysan, il n'y avait pas d'heure. On commençait à 5 heures du matin jusqu'à 10 heures le soir. Pas de liberté, dimanche, occuper des bêtes, etc. Bon, alors pour un gamin de 18-20 ans, mon rêve, moi, c'était de travailler en usine. Donc, c'est le pourquoi qu'à 21 ans, c'était l'époque de la majorité à cette époque-là, à 21 ans, j'ai quitté les fermes pour travailler en usine.
Alors voilà ce que ça donne, remis en, je dirais, en récit par Daniel Champion. Ça commence comme ça, ce récit, page 86. Je suis né en 1933, pas à Vierzon, à Clermont, dans l'Oise. Bon, c'est simple, je suis de l'assistance publique. Disons que ma mère était fille-mère, et à cette époque, c'était un crime. Alors, pour pouvoir travailler, trouver un emploi, elle devait me placer, je sais par ma mère, que j'ai été en nourrice chez une dame qui s'appelait Blé. Je ne peux pas donner de détails parce que je ne me souviens même pas de la date. Ça devait être dans la période de 1 à 3 ans. Voilà le passage. Et puis après, Daniel, vous avez écrit, je vous l'ai déjà dit, je suis de l'assistance publique. Ma mère, pour pouvoir travailler, a été obligée de me déposer là. Mais j'étais pas abandonné. Elle avait droit de regard sur moi. Elle me prenait tous les week-ends avec elle. Je n'étais pas abandonné, mais j'ai vécu dans le milieu de l'assistance publique.
De 14 à 21 ans dans les fermes. Bon, les fermes, j'étais rodée. J'étais bien. Mais enfin, j'avais envie de rejoindre le centre parce que j'avais de la famille, mes grands-parents, et puis je voulais surtout travailler en usine. Parce que bon, à l'époque, on s'apercevait qu'à l'usine, on travaillait 8 heures et c'était terminé. Alors qu'ouvrier paysan, il n'y avait pas d'heure. On commençait à 5 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Et puis le dimanche, il fallait s'occuper des bêtes. Alors pour un gamin de 18-20 ans, mon rêve à moi, c'était de travailler en usine. Du fait que je sortais de la campagne et que je m'y plaisais bien, j'aurais pu rester à la campagne. Mais moi, je voulais faire l'expérience de la ville. Il y avait une chose, les bêtes, ça n'a pas d'heure. Donc, on se levait à 4h30, 5h, pour alimenter les vaches, les cochons, etc. Les journées se terminaient à 19h le soir, sans arrêt. Si, il y avait un arrêt à 10h. Pour casser la croûte. Le tantôt, à cette saison-là, on arrêtait à midi. Dans les fermes, on mange bien. Après, il y avait la sieste obligatoire jusqu'à 3h, 3h30. On faisait ce qu'on voulait et à 3h30, on reprenait le travail jusqu'à 9h. Mais ça faisait des journées prises et pour un jeune homme de 17-18 ans qui aime bien s'amuser avec les copains, les jeunes filles, plutôt qu'à être jusqu'à 9h du soir dans une étable à nettoyer les vaches, c'était trop pris comme boulot, nettoyer les vaches. Quand je voyais les copains à l'usine qui finissaient à 5 ou 6 heures, moi, je venais juste de commencer mon après-midi, alors qu'eux avaient fini leur journée. J'ai dit ça, mon petit bonhomme, tant qu'à faire, autant aller dans la région centre. D'abord, ça me rapprochait de mes origines, et en plus, à l'époque, c'était la région centre qui travaillait le mieux. Les usines fonctionnaient à plein gaz. C'est pour ça que je suis arrivée par ici.
Voilà un autre passage, donc. Et d'ailleurs, on a fait des bonds dans le récit. Je pense que les auditrices et auditeurs ont compris le cheminement de votre livre, de vos pensées à tous les deux, et donc montrer cette efficacité que vous avez pour passer de l'interview orale, sur la mémoire orale, à ce qui est maintenant écrit dans le texte.
L'idée, c'était de garder aussi cette épaisseur, cette texture du langage, en sachant que c'est assez compliqué parce que lorsqu'on passe de l'oral à l'écrit, il y a un changement de médium. Donc automatiquement, l'une des grandes difficultés, je pense, pour Daniel, ça a été d'essayer de passer d'un médium à l'autre en essayant de rendre compte de cette texture qui explique beaucoup de choses, quoi, sur le...
D'ailleurs, dans l'appendice, un des deux appendices à la fin du livre, je me suis efforcée d'expliquer comment j'ai procédé de façon à rendre sensible le fait qu'il faut appliquer une méthode, tout en étant extrêmement à l'écoute de ce qu'on a à travailler.
Sur un plan sociologique aussi, l'idée c'était de se dire le récit de vie participe d'une compréhension d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire que l'intelligibilité passe aussi par l'émotion, par le sensible. C'est-à-dire qu'on fait confiance au lecteur en se disant il va découvrir des récits de vie, il va découvrir des choses qui vont le mettre en émotion, sur des émotions ou sur des réflexions, et il sera en capacité aussi d'en tirer un certain nombre de conclusions sur un plan sociologique. Bon, à la fin de l'ouvrage, on propose au lecteur une possibilité d'interprétation, mais on fait confiance au lecteur sur sa possibilité, sur des éléments qui sont des éléments de réflexion, d'autoréflexion ou des éléments de sensible, pour tirer un certain nombre de conclusions par lui-même, quoi.
Alors je vois là, appendice, ça c'est écrit par vous, mettre en récit, transcription, écriture, ensuite c'est structuration du récit, enchaînement, etc. Vous donnez des exemples, lexique et syntaxe, vous expliquez tout ça dans une quinzaine de lignes, et puis après, appendice 2, état du langage ouvrier.
Avec le procédé informatique qu'on a évoqué.
Voilà. Bien.
Une petite question. Le bruit de fond, enfin l'ambiance de fond, est-ce que ça participe de l'expression de quelque chose ?
Évidemment, parce que... Là, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du contexte de réalisation de l'interview. L'interview a été réalisée, dans mon souvenir, ça s'appelait Mammouth, je crois. Et là, c'était assez intéressant parce que pour le coup, c'était dans une cafétéria. Et moi, en tant que sociologue, ça m'intéresse de savoir où l'interviewé veut que l'interview se fasse. Et là, pour le coup, donc, c'était dans un lieu qui était une cafétéria. Donc l'arrière-fond que l'on entend dans l'interview, évidemment, ce sont les gens qui sont à côté de nous, qui sont en train de discuter, qui sont en train de manger. Et moi, ça m'intéressait parce que moi, ça me permet ensuite sociologiquement de poser un certain nombre d'hypothèses. Le fait que ça se fasse chez l'interviewé ou à l'inverse que ça se fasse dans une cafétéria, ça n'a pas du tout la même signification.
Bien sûr. Et je dirais au niveau de la radio, Gérard me contredira pas, je suppose, que c'est effectivement ce bruit de fond remet dans le contexte et me paraît effectivement fort riche. Au niveau de la réception, là, par les auditrices et auditeurs.
Perec ne disait pas autre chose. Il parlait justement du bruit de fond, de l'importance du bruit de fond, à ses yeux, en termes d'éléments de signification pour la compréhension du social. Lorsqu'on relit, par exemple, une tentative d'épuisement d'un lieu parisien, c'est exactement le projet. Toucher l'infraordinaire, c'est le projet de Perec. Enfin, un des projets de Perec. Il a évidemment d'autres fils de signification.
C'était repris par Jean-François Lahaye, je crois, cette idée-là.
Ouais.
Oui, on retrouve là vraiment des conditions où, effectivement, l'ouvrier se sent plus à l'aise,
oui,
et donc se lâche plus, non ?
Voilà, parce que pour le coup, ça pose aussi la question de la manière dont on pense l'ouvrier. C'est-à-dire que moi, je suis dans une approche culturelle. Hein. Mes cadres de référence sont les personnes que je vais citer dans l'ouvrage avec Daniel, c'est-à-dire Edward Thompson, Richard Hogarth. Sur un plan français, je pourrais aussi citer Jean-François Lahaye, Numa Murard, Olivier Schwartz. Donc c'est une approche culturelle de la classe ouvrière. Et le fait que l'ouvrier nous dise, enfin l'ouvrier me dise, j'ai envie d'être interviewé à Mammouth, moi ça m'intéresse parce que là ça rend compte d'une culture ouvrière, des éléments d'une identité collective, qui permettent d'élargir la condition ouvrière à quelque chose qui serait simplement lié à l'usine. L'usine joue un rôle central pour la génération des personnes que j'avais interviewées à l'époque, mais la culture ouvrière n'était pas réductible à la seule question du lieu du lieu de travail, c'est-à-dire de l'usine.
C'est assez intéressant là, parce que je dirais demander Mammouth, société de consommation, etc., qui a un peu dévalorisé le supermarché. C'est pas le meilleur endroit qu'on pourrait choisir, mais oui. ça me paraît.
Sauf que
fort intéressant.
Les lieux, par exemple, du populaire aujourd'hui, ils sont où ? Ils sont sur les arrêts d'autoroute. Ils sont sur les marchés. Ils sont là, enfin, le populaire ou les ouvriers sont là, enfin, je veux dire, le supermarché, oui.
Oui, pour reprendre ce que Laurent a appelé les bruits, et dont parle Pérec, un des obstacles que j'ai eu, moi, c'est que je n'avais pas effectué ces interviews, je n'avais pas vu ni entendu ces personnes, donc toute la part de la communication orale qui est extrêmement importante, que ce soit gestes, expressions de visage, silence, même se racler la gorge, etc., était perdue pour moi. Et impossible de les mettre en texte directement. Donc il a fallu parfois que j'aie recours, d'ailleurs je l'explique dans l'appendice, que j'aie recours à des substituts langagiers. On les connaît bien, les hésitations, c'est eux, la ponctuation, point de suspension pour les silences. Mais parfois, j'étais obligée d'abandonner, c'est avec dépit, évidemment, mais c'est comme ça.
Ouais, on pourrait appeler ça les didascalies si c'était du théâtre.
Voilà.
Et pourquoi pas, est-ce que ça pourrait s'envisager de faire du théâtre. Wenzel a fait le théâtre du quotidien où il parlait justement des problèmes de loin d'Agondange, etc. Est-ce que ça pourrait se faire, ça ?
Non seulement ça pourrait se faire, mais je le souhaiterais.
Oui, sous plusieurs formes auxquelles on a déjà un peu pensé, d'ailleurs avec Red Bernard, à savoir que ça peut être des lectures publiques qui pourraient être faites par des jeunes qui apprennent le théâtre, qui apprennent la forme théâtrale. Ça peut être un prélude à un débat, et on peut éventuellement faire des mises en espace, mais après c'est autre chose, c'est vraiment à étudier.
À Vierzon, il y a Fabienne Bonnet, je crois.
Adrienne Bonnet.
Qui fait ce genre de choses un peu.
Mais qui fait un travail très intéressant d'ailleurs, elle avait fait une mise en théâtre, une adaptation très personnelle du livre d'Annie Ernaux. C'était Regarde les lumières, mon amour. Et là, on parlait des lieux du populaire tout à l'heure. Ouais. Annie Ernaux saisit un lieu du populaire par excellence, c'est la grande surface.
La grande surface.
Et là, Adrienne Bonnet a fait un travail, je trouve, vraiment très intéressant sur la mise en forme théâtrale du travail, enfin de l'écriture d'Annie Ernaux.
D'ailleurs, Laurent et moi, on se retrouve beaucoup sur nos goûts littéraires. J'avoue que s'il avait été un sociologue pur et dur, amateur de quantitatif, j'aurais pas travaillé 10 ans avec lui. Et Annie Ernaux, c'est un de nos écrivains phares. C'est vraiment
Eh bien, merci de nous indiquer, justement, en plus du vivant de ces trois métallos, des références sérieuses et en même temps qu'on peut consulter.
Ah oui.
Eh bien, je vous remercie. Ça a été fort intéressant. Et puis, j'espère qu'il y aura des continuations, que ça ne restera pas qu'un livre. Hein. Il y a plein de possibilités pour explorer ces récits d'anciens métallos recueillis à Vierzon en 1996, mis en page par Laurent Hocher et Daniel Champion, aux éditions de l'Harmattan Logique Sociale, et ça coûte 18 euros.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant. Pa-do-do-dee-doo-da-doo-da-doo-doo-dee-doo-ah.